Je suis plus petit que Étienne. Alors, je voudrais juste demander qu'est-ce qui est au commencement de notre vie? Qu'est-ce qui est au commencement de notre année? Qu'est-ce qui est au commencement de notre journée? C'est une question très importante de savoir ce qui est à l'origine, parce que la Bible commence comme ça, au commencement, n'est-ce pas? Il y a deux livres de la Bible qui commencent par au commencement, et vous devez savoir lesquels deux. Le premier, on le devine, Genèse, et ensuite Jean, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et j'aimerais savoir juste si on va lire ce passage de Jean, le début de l'évangile de Jean. Mais j'aimerais savoir si on peut dire chacun, si on peut témoigner, au commencement de ma vie, au commencement de mon année était la parole. Est-ce qu'on a reçu une parole de la parole de Jésus, pas une parole, mais la parole de Jésus dans nos vies? Parce que le problème du commencement, c'est le problème crucial. Les scientifiques ont une théorie concernant l'univers, concernant ce qui se vit autour de nous, concernant tous les mécanismes qui existent, y compris le mécanisme qui gère notre cerveau, qui gère notre système digestif, système cardiaque, les galaxies, etc. Ils ont des théories extraordinaires. Mais ils ont un problème avec le commencement. Ils ont un problème réel. Le CNRS a écrit officiellement que le commencement, le point zéro, sera un mystère pour toujours. La science ne peut pas accéder au point zéro. Après, c'est plus un problème. Alors, ils essayent de dire on peut aller à un milliardième, deux milliardièmes, deux milliardièmes de seconde après le point zéro. Alors, vous expliquez ça dans une démonstration de maths. Vous dites au prof de maths, bah, écoutez, je ne peux pas passer de là à là, mais il y a un mystère, et puis on arrive là, à l'étape suivante. Qu'est-ce qui va vous dire retournez à votre place? Zéro. Si on ne peut pas expliquer l'origine, si on ne peut rien dire sur le commencement, on se tait. Le reste n'a aucun pouvoir, n'a aucune cohérence, parce que tout est fondé sur le commencement. Et si le commencement n'est pas là où est un mystère, eh bien tout le reste est un mystère. Mais la Bible parle du commencement. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa. Et vous savez que, par conséquent, tous les évolutionnistes sont créationnistes. Parce que la matière a été tirée du néant. Ils sont obligés de dire qu'il y a eu un commencement. Donc la matière a été tirée du néant et créer, ça veut dire tirer du néant. Donc sont créationnistes. Alors on dit que c'est interdit de parler de la création dans les écoles parce que c'est de l'obscurantisme. Mais la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre, bien sûr, mais il a dit que la lumière soit. Et c'est la lumière qui s'éclaire sur le commencement. C'est Dieu qui est à l'origine. Et je voudrais vraiment savoir si la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, parce que celui qui a créé l'univers, c'est Jésus. Vous vous rendez compte, c'est Jésus. Il est appelé notre frère. Nous sommes co-héritiers de Christ. L'héritage qui revient à Jésus, il nous le donne aussi. Vous êtes co-héritier du Créateur de l'univers. Et vous dites, ouais, mais je suis pas d'une famille connue, j'ai pas réussi dans la vie, j'ai pas réussi grand-chose dans la vie. Mais vous vous rendez compte qui est votre frère, vous vous rendez compte qui est votre père. Et vous vous rendez compte du commencement de votre vie. Si vous êtes avec Christ, il y a eu une nouvelle création qui s'est opérée. Il y a eu quelque chose qui s'est opéré un jour où la parole de Dieu a pénétré dans vos cœurs. Et votre vie spirituelle ne doit pas être un processus évolutif. Ce n'est pas une évolution, n'est-ce pas, qui est façonnée par les circonstances de l'environnement avec la sélection naturelle. Votre vie, elle est fondée sur Christ, si elle est vraiment, si vous êtes vraiment des nouveaux. Et il y a eu la parole de Dieu, et c'est cette parole qui dirige votre vie et qui conduit votre vie. C'est merveilleux quand on peut dire ça. On a été touchés, enfin moi-même, je sais que mes frères aussi ont été touchés, en entendant les deux personnes qui sont candidates au baptême, d'entendre le témoignage. On n'avait pas besoin de l'entendre, parce que ça se voit, mais on entend. Et en entendant, on voit l'œuvre de Dieu, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, on voit la parole qui a fondé un commencement, qui a dit que cette personne devienne une nouvelle création. Et quelque chose s'est passé, quelque chose s'est produit de miraculeux. Et ce n'est pas un mystère, c'est Jésus-Christ qui est à l'origine, c'est Jésus-Christ. Mais si vous regardez l'évangile de Jean qui commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », bien sûr que la parole était Dieu. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de Dieu, ce qui est produit par Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc sa parole, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu sous une forme audible ou visible. Et cette parole, elle touche les cœurs encore aujourd'hui. Elle convainc de péché, elle convainc de justice et de jugement. Et dans l'évangile de Jean, vous voyez tout un tas de personnes qui ont reçu la parole de Jésus, qui ont reçu Jésus et qui ont reçu une parole. Et cette parole a été gravée dans leur cœur, dans leur vie et dans leur corps aussi, pas seulement dans leur mémoire, mais dans leur corps, parce que leur corps témoignait de cela. Leur comportement témoignait de cela. Si vous n'avez pas eu de changement dans votre vie, alors il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Vous allez dire, mais si on a été bien élevé, on s'est bien comporté, eh bien il y a nécessité quand même qu'il y ait une transformation réelle. Vous savez, moi-même je suis fils de pasteur. Comme disait un fils de pasteur que j'ai entendu, il a dit « Je suis né entre deux pages du Nouveau Testament ». Pas littéralement, mais presque. On m'a lu l'Évangile, on m'a lu la parole de Dieu avant que je puisse comprendre ce que ça voulait dire. Mais à partir de l'âge de 9 ans, j'ai eu la conscience du péché et la conscience terrible de l'enfer. Et je savais que j'étais destiné à l'enfer. Quelqu'un qui vient plus à l'église ici a dit « C'est pas possible qu'un enfant ait la conscience du péché. » Bien, je peux vous dire que j'avais la conscience du péché. J'avais besoin de Jésus-Christ dans ma vie, comme on a tous besoin de Jésus-Christ. J'avais besoin du salut et j'aspirais à ce salut, mais je voulais qu'il se fasse en secret. Je voulais pas que ce soit fait en public. Je voulais qu'après quelques années, les gens disent « Bah tiens, il doit être chrétien ». Et je dis « Oh oui, ça s'est passé il y a longtemps, ça. » Parce que j'étais gêné. Alors le Seigneur a mis le point sur cette chose dans ma vie. Et il m'a dit bah, « Tu veux pas, alors je vais te demander de le faire. » Il n'est pas comme ça systématiquement. Il ne faut pas dire que voilà, parce qu'on n'a pas envie de quelque chose, le Seigneur va nous dire « Fais-le. » Mais c'était le point qu'il fallait toucher dans ma vie. Parce qu'il y avait de l'orgueil qui résistait. Et le Seigneur m'a dit, eh bien, tu dois manifester publiquement que tu veux suivre le Seigneur Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus. Le Seigneur a ôté la culpabilité du péché le jour où j'ai répondu à ce qu'il me demandait de faire. Le fardeau du péché est tombé. Le fardeau de mes épaules est tombé. À 13 ans et demi, j'avais un lourd fardeau sur les épaules. Je ne pouvais plus supporter de vivre déjà à 13 ans et demi avec le lourd fardeau de culpabilité. Mais Jésus libère. Quand il prononce cette parole, il libère. Parce que sa parole est créatrice. parce que sa parole crée les choses qu'elle prononce. Si vous regardez dans l'évangile de Jean, il dit quelque chose aux personnes et le miracle s'accomplit. La loi, quand elle dit quelque chose, elle dit quelque chose, mais il n'y a pas de miracle qui s'accomplit. Elle dit, tu ne dois pas faire cela ou tu dois faire cela, mais je n'arrive pas, Seigneur. Et quelquefois, on dit à des alcooliques, il faut que tu arrêtes de boire. Voilà une parole qui est prononcée, mais ce n'est pas une parole créatrice. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dire à un alcoolique, il faut que tu arrêtes de boire, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sera une parole qui libère et qui dira, il faut que tu arrêtes de boire, mais qui libérera avant de le dire. Combien on a culpabilisé des gens ? Davantage, parce qu'on a énoncé la loi au lieu d'énoncer la parole de Dieu, au lieu d'avoir le souffle de Dieu qui délivre, qui libère. Parce que dans nos vies, dans ma vie, il y a toujours un défaut de laisser la parole de Dieu agir. Il y a toujours un manquement. Mais quand la parole de Dieu se manifeste réellement dans les réunions, eh bien les gens, sans s'en rendre compte, sont délivrés. Ils se rendent compte après quelque temps. Ils disent, mais j'ai l'impression que je n'ai plus envie de boire. J'ai plus envie de me droguer. J'ai plus envie de faire ce que j'avais toujours envie de faire, ce que je ne pouvais pas résister, ce qui me posait un problème, je ne pouvais pas résister à faire ces choses-là. Eh bien, j'ai reçu la parole du Seigneur. Au commencement, il y avait cette parole du Seigneur qui a créé. Croyez-vous que la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, n'a pas entendu la parole de Dieu ? Ce n'était peut-être pas une parole qu'elle pouvait mémoriser en disant, elle a dit, hein, il m'a dit ceci, il m'a dit ce que j'ai fait. Mais ce n'est peut-être pas les mots exacts dont elle va se souvenir. Mais c'est cette parole qui a transformé sa vie. C'est ça la parole de Dieu qui commence quelque chose dans nos vies, qui fonde quelque chose dans nos vies et qui nous permet de construire, qui nous permet de grandir sur cette parole. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? En Jean chapitre 5, vous avez le paralytique. Prends ton lit et marche. Une parole tout à fait différente. S'il avait dit à la Samaritaine, prends ton lit et marche, elle aurait dit quoi ? C'est pas adapté. Et vous avez des chrétiens qui disent, ils vont prier pour une personne, ils vont dire, il faut que tu prononces cette phrase-là et tu seras délivré. Et la foi, mais prononce ça. Ils vont voir la Samaritaine, ils vont lui dire, prends ton lit et marche, au lieu de lui dire ce qui devait être dit à son cœur. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous parle, qu'il dise à notre cœur exactement ce qui doit être dit, et que la parole créatrice de Dieu, à l'origine de l'univers, soit à l'origine d'une nouvelle création dans nos vies. Ce n'est pas dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ainsi que Louis II l'a traduit, mais c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ça paraît difficile à comprendre, mais en fait c'est parce que ce qui s'est passé à la création de l'univers, c'est ce qui se passe à la création de nos vies spirituelles. Quand Dieu établit quelque chose, il établit un miracle extraordinaire qui va durer dans le temps et qui va fonctionner, qui va générer des mécanismes extraordinaires spirituels qui vont fonctionner. Dans Jean chapitre 6, vous savez ce qu'il y a, il y a la multiplication des pains, n'est-ce pas ? Là aussi, il y a eu une parole qui a été dite. Peut-être pas une parole verbale, mais il y a eu la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont essayé d'imiter cela. Il y a des gens qui ont essayé de faire la même chose. Mais ce n'était pas du tout la parole créatrice de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui parlait. Et le plus grand miracle de Dieu maintenant au niveau de la multiplication du pain, c'est comment Dieu peut utiliser le peu la misère de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire pour sauver des âmes, pour nourrir des âmes. Et si dans cette église, encore une fois, il n'y a pas du pain à manger, si on doit se partager des toutes petites miettes de pain, si on doit se partager juste un petit bout de poisson et dire voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, alors c'est que Jésus n'est pas là, parce que Jésus multiplie, parce que Jésus donne en sorte que chacun ait à manger. Bien sûr, il y en a peut-être qui ont dit, on ne le sait pas, mais dans la foule, qui ont dit, non, moi, je ne vais pas prendre cela, ça ne me convient pas. Eh bien, ceux-là n'ont rien eu. Mais les autres ont dû se régaler. De manger un miracle de Dieu, de manger le résultat, le miracle de Jésus, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, manger de la parole de Dieu, manger Jésus-Christ lui-même, c'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, vous avez Jean, chapitre 8, après, avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, et la parole libératrice de Dieu, la parole libératrice de Jésus. Si vous avez besoin d'entendre cette parole de Jésus, alors demandez à Jésus, venez à Jésus, venez en sa présence, et c'est là où il y aura une parole qui va être prononcée. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu, comme on l'a lu, comme il a été dit. C'est pas lui qui se sépare de vous, c'est pas lui qui se tient éloigné de vous. Ce sont notre réticence, notre manque de s'approcher de Dieu. Lors de ce début d'année, on peut s'approcher du Seigneur et lui dire, Seigneur, parle à mon cœur. J'avais choisi un chant qui dit, parle à mon cœur, Seigneur. Mais quand j'ai vu pour que tes louanges s'élèvent, je me suis dit, c'était pas trop bien chanté ce matin, donc je ne veux pas imposer quelque chose encore de nouveau, mais parle à mon cœur, Seigneur. Quelle belle prière, quelle prière simple, celle de Samuel, le prophète, quand il était enfant. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, parle à mon cœur. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Et Seigneur, donne la parole. Et quand Dieu parle, il change les choses. Ce n'est pas juste une parole qu'on reçoit, qui est une instruction, ça peut l'être, mais dans la plupart des cas, il y a quelque chose qui est fondé, qui délivre. Pour la femme adultère, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il a dit aussi, va, ne pêche plus. Parce que Dieu, parce que Jésus n'accuse pas. L'accusateur, c'est le diable. Mais la loi nous condamne. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir du tout pour l'humanité qui se détourne de Dieu. Le message de l'enfer n'est plus enseigné dans la plupart des églises évangéliques parce qu'il ne faut pas heurter. Mais le jour de Noël, à la maison, Sophie avait prévu dans le programme que je dise un petit quelque chose sur Noël. Alors j'ai choisi dans l'Apocalypse où il est question de ceux qui seront jetés dans le feu éternel. J'ai parlé de le second retour de Jésus, la seconde venue de Jésus. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de dire ça peut-être, mais le message de l'enfer est une réalité. Et on ne peut pas l'ignorer. Il n'y a pas d'autre chemin de salut que celui de Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus, parce qu'il est la vérité, parce que c'est lui qui est à l'origine, qui est au commencement, c'est lui qui fonde les choses dans nos vies, les choses spirituelles, et c'est lui qui nous sauve de l'enfer. Et si nos vies ne sont pas en règle avec Dieu, nous savons où nous allons. Mais si nos vies sont réglées par la parole de Dieu, nous savons aussi où nous allons. Je savais que j'allais à l'enfer jusqu'au jour où Jésus a prononcé une parole que je ne peux pas, que je n'ai pas entendue. Mais il a prononcé une parole dans ma vie qui a fait que le fardeau du péché est tombé et que je savais que j'avais la vie éternelle. Je savais que j'avais le ciel. et plus l'enfer. Ça, c'est le commencement. Au commencement était la parole, au commencement, Dieu créa, Dieu a tiré du néant. Et le fait de tirer du néant, c'est quelque chose de miraculeux. C'est pour ça qu'il y a le problème de l'instant zéro. C'est pour ça que la science qui commence à devenir honnête commence à dire, on peut expliquer seulement un petit peu après l'instant zéro, mais pas l'instant zéro, désolé. Alors ils vous font croire, c'est déjà pas mal, hein. On peut vous expliquer tout le reste. Expliquer, c'est une théorie, bien sûr, c'est un modèle. Mais on ne peut pas vous expliquer le fondement. Eh bien, les chrétiens sont souvent comme ça. Ils n'ont pas la certitude qu'il y a eu un fondement dans leur vie. Ils se disent chrétiens ou ils s'affichent comme chrétiens, mais il y a un manque dans le fondement de leur vie. Ils ne sont pas sûrs que ce soit Jésus-Christ. Donc ils parlent d'évolution. Ils parlent d'un modèle évolutif. Et le principe de l'évolution, de la théorie de l'évolution, est basé sur deux mécanismes, sur deux principes. C'est la sélection naturelle et le temps. Il faut beaucoup de temps pour que la sélection naturelle fasse son effet. Alors la sélection naturelle, c'est tout à fait une loi évidente, merveilleusement créée par Dieu. Oui, dans la nature, les plantes qui sont faibles vont mourir plus vite que celles qui sont fortes. Oui, les animaux qui sont fragiles seront sélectionnés pour la mort et les plus forts résisteront. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, l'évolution de la vie chrétienne, ce n'est pas le temps qui va sélectionner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si vous êtes chrétien aujourd'hui où vous avez la foi en Dieu et vous attendez que le temps passe, en disant « je serai meilleur dans quelques années », eh bien vous aurez une déception dans quelques années. On vous dira « il faut quelques millions d'années ». Là, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'en tout cas, si vous vous laissez aller pendant quelques temps, eh bien vous allez vous dégrader. C'est la même chose si vous ne vous lavez pas. Et ça, il y en a qui ont essayé. Après quelques jours, ça devient terrible. Donc si on laisse la sélection naturelle se produire pour enlever ce qui est mauvais dans notre vie, pour enlever ce qui devrait être enlevé, et on dit voilà, ça va se faire, il faut le temps. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont un problème de pardon et le laissent traîner. Et dans son infinie bonté, le Seigneur laisse ce problème sans juger la personne du tout pour ce problème de pardon. Il le laisse traîner pendant des années en disant « ça va s'arranger, je suis troublé actuellement, mais un jour j'obtiendrai le pardon moi-même, je serai soulagé, ça sera oublié. » Si vous avez besoin de pardon, la parole du Seigneur est très claire pour vous, c'est vous lever et vous demander pardon. Si vous devez pardonner à quelqu'un, eh bien vous prononcez devant Dieu ce pardon du plus fort que vous pouvez le faire. Si vous pouvez chez vous, vous le criez en disant « je pardonne au nom de Jésus ». Si vous pouvez le faire, vous criez que vous aimez la personne qui mérite votre pardon. Mais faites-le. Ne laissez pas les années, les semaines traîner, n'est-ce pas? Réglez ces problèmes-là. C'est quelque chose qui doit être réglé dans votre vie. Faites-le pour qu'il y ait un commencement, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer dans votre vie. Je me rappelle moi-même quand sur un frère, j'avais un problème dans ma vie. Je ne pouvais plus voir ce frère de manière positive. C'était terrible. Je ne pouvais plus le voir de manière positive. Tout ce qu'il disait, c'était critiquable, voire détestable. Si on m'avait dit « mais pourquoi ?», j'aurais pu expliquer. Il y a ceci, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le Seigneur m'a donné la parole et il n'a pas dit « Ah oui, tu es victime ». Il m'a dit va demander pardon à ce frère. Quand j'ai demandé pardon, c'était réglé. Je voyais ce frère de manière positive tel qu'il était. Je voyais comme un homme de Dieu et plus comme un homme qui posait problème. J'étais d'accord avec lui sur tous les points pour lesquels j'avais des problèmes avant. La parole libératrice de Dieu, parce qu'il faut demander pardon quand on doit demander pardon. Mais on laisse traîner en disant le temps va régler mes problèmes. Le temps va faire que je vais évoluer positivement. Ça ne marche pas comme ça, c'est un principe athée ça. C'est un principe qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de commencement. Alors si on enlève le commencement, on a quelque chose qui doit fonctionner avec le temps et avec le hasard et avec la sélection naturelle seulement comme principe créateur. Mais le Seigneur a quelque chose de nouveau pour vous. Et le Seigneur veut faire pour chacun de nous en 2018 quelque chose de nouveau. Il veut créer quelque chose. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, c'est l'occasion de le faire en 2018. Et vous, les adolescents, qui êtes sollicités par le monde d'une manière que jamais l'humanité n'a connue, prenez position pour Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin qui puisse vous amener au salut. Le chemin, si vous n'avez pas connu Jésus-Christ, le chemin, c'est l'enfer sur lequel vous êtes, jusqu'au jour où vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes réconcilié avec Jésus, vous avez pris la position courageuse de dire « Moi, je veux suivre Jésus, même si mes amis adolescents ne le suivent pas, moi, je veux suivre Jésus. » Et Jésus vous aidera devant les tentations. Devant les tentations, il y aura la parole de Dieu qui va se prononcer à vos cœurs pour vous délivrer, de tout ce qui vous lie, de tout ce qui vous attache, de tout ce qui gère vos comportements. Mais ce n'est pas pour 2019. Ce n'est pas pour 2018. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Juste venez à Jésus. C'est lui qui a la parole. Ce n'est pas nous qui avons la parole. C'est Jésus qui a la parole. Parole de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, disait Pierre, tu as les paroles de la vie. Et c'est ces paroles qu'on veut entendre et que je veux entendre pour ma vie aussi. Et que le Seigneur nous conduise pour qu'on soit dirigé par sa parole et pas par d'autres mécanismes. Et que fin 2018, quand on vient ici au culte un dimanche matin, le dernier dimanche de 2018, Seigneur a fait tellement de miracles qu'on voit des nouveaux visages de gens qui sont venus au Seigneur par l'Esprit de Dieu, juste parce que voilà, on a cru que le Seigneur allait agir et il commence à agir. Eh bien, le Seigneur va commencer à agir seulement quand on lui laisse la place, qu'on laisse la place à sa parole, qu'il n'y ait aucun obstacle dans l'Église à sa parole. Amen.